RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'After est sur RMC, l'After est sur BFM Sport, l'After est sur rmcsport.fr. Nous sommes partout, l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et ce soir, on va parler Coupe de France, mais pas que. On va également revenir sur le match d'hier soir entre Marseille et Paris, parce que...
Si.
Christophe Dugarry n'est pas content et on va pouvoir débattre après ces déclarations de l'après-midi d'Antime Dugas. Et puis on va aussi parler de Neymar. Et oui, on va parler de Neymar parce qu'on a des infos à vous donner. Jonathan Macardy est là. Jonathan qui s'est pris deux fois 3-0 face à Paris en l'espace de 4 jours là. Ça va, Jonathan?
Salut, ça va.
Le gars dégoûté.
Ça va pas ou quoi?
Pourtant, et Jérôme Bretagne,
c'est
salut
pour ça
Jérôme.
Que tu t'es fait beau comme ça pour masquer le.
D'une part, je suis toujours beau, mais d'autre part, ça m'empêche pas d'être dégoûté.
Mais pourquoi t'es dégoûté? Ça reste.
Parce que moi j'étais un peu naïf, j'ai cru aux déclarations. Tu vois, aux déclarations, un match d'homme, je donne mon corps à la science et je suis un peu déçu. Mais parce que je suis un peu
naïf. Non, mais au bout d'un moment, tu sors de ta peau de supporter. Tu regardes, t'analyses un match pas en étant supporter.
C'est toi qui me dis ça?
Ben oui, bien sûr. Moi je l'ai fait. Et regarde, hier encore.
Jérôme, d'une certaine manière.
Ou beaucoup m'ont même reproché et dire: ah, t'es gentil avec
moi. C'est vrai, tu as été très bon hier. Je t'ai écouté. J'ai coupé le son de la télé, je t'ai mis, t'as été très bon.
Mais comme souvent, Jonathan.
Alors, si vous nous rejoignez dans l'after, je rappelle que Caen a battu Lyon 1-0 ce soir en quart de finale de la Coupe de France. Les demi-finales opposeront donc à la mi-avril Caen au Paris Saint-Germain et Les Herbiers à Chambly, puisque le tirage s'est fait avant le match. Voilà, donc certaines mauvaises langues sur Twitter disent le premier qui marquait ce soir, ça allait être le but de la défaite face au PSG. Mais en fait, pourquoi pas. Non mais pourquoi pas quand PSG, pas l'exploit, il faut...
Non mais heureusement encore, tu peux y croire les Canets.
Alors, bien sûr pour nous joindre c'est très simple, vous le savez, 32-16, vous nous appelez. Vous allez sur Direct Studio aussi, pour Direct Studio il faut télécharger l'appli gratuite RMC Sport, vous avez tous les résultats, toutes les infos. Vous appuyez sur Direct Studio, vous envoyez vos messages, les meilleurs on les lit à l'antenne. Et puis, le hashtag RMC Live sur Twitter si vous avez Twitter. Et puis Facebook, la page Facebook de l'After, messieurs dames, plus d'un million de suivers de la page Facebook de l'After, 1 300 000 et quelques, avec évidemment tous les débats de l'After, toutes les réactions, donc n'hésitez pas là aussi à faire un tour sur notre page Facebook. En Coupe de France, l'essentiel, c'est pas les 3 points.
Mais on fait les 3 points.
Mais on fait quand même les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Mais souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Jonathan, tes 3 points de débat ce soir.
Premier point, c'est que Lyon est toujours aussi brouillon. Ça fait 2 points en 15 matchs et là, ce match de coupe qui est perdu, mais c'est quand même assez alarmant quand on regarde en termes de jeu, en termes de tactique, en termes de ce qui se passe sur le terrain. Lyon, on reconnaît pas Lyon du début de saison et là, très franchement, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Le deuxième point, c'est que c'est un vrai match de coupe. J'ai trouvé le niveau technique assez faible. Les deux équipes des deux côtés, il y avait pas grand chose à proposer, mais il y avait quand même de l'engagement. Et je trouve ça logique que qu'on gagne ce match-là, dans un match vraiment de coupe où c'est celui qui a le plus envie qui gagne. Le troisième point, c'est Neymar, stop. Stop, j'ai entendu des commentaires. Alors, vous savez que je suis pas non plus le premier sympathisant du Paris Saint-Germain. Mais les commentaires que j'entends comme quoi Neymar privilégie le mondial, Neymar se fout de la gueule du PSG, c'est pas vrai, faut arrêter ces conneries. Il y a beaucoup de gens qui savent que au moment où Neymar devait signer au Paris Saint-Germain, j'étais un des premiers à le savoir. Là, j'ai parlé à la même personne qui m'avait donné cette info. Neymar, il a tout fait pour jouer le match contre le Real. Il voulait pas du tout se faire opérer à la base, avant le second examen. Il était prêt à jouer contre le Real Madrid. Il voulait tout faire pour jouer contre le Real Madrid. Et ça, faut arrêter de dire que Neymar se fout de la gueule du PSG. Neymar est vraiment blessé.
On en reparlera tout à l'heure.
Et ça, franchement, il est blessé. Il va pas jouer sur une jambe non plus, quoi.
Jérôme, tes 3 points.
Bon, le premier point, c'est sur la purge qu'on a vue. Faut pas avoir peur, ça s'est animé pendant un quart d'heure en fin de match, mais franchement c'était un petit match de Coupe de France. Je m'attendais à mieux des deux côtés, mais surtout de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que ça revient à mon deuxième point, OL ambition point d'interrogation, parce que où sont les ambitions lyonnaises? Alors moi je veux bien qu'on me dise ils veulent aller loin en Europa League, ils veulent aller parce que la finale est au Parc OL, mais attention, l'Europa League, il y a des équipes sérieuses, des grosses équipes, à commencer déjà par le prochain tour, le huitième de finale, qui sera pas simple pour les Lyonnais. Et si jamais, je le souhaite pas, pour le football français, pour les Lyonnais, mais si jamais ça se passe mal et tu peux perdre contre Moscou, mais tu vas faire quoi derrière? T'as le championnat où tu vas te battre pour la troisième place, mais t'as quand même beaucoup de points de retard avec un Marseille qui a l'avantage de te recevoir, et que là t'avais peut-être l'opportunité de t'offrir une finale, parce qu'il faut pas se leurrer, si c'est Lyon et Paris en finale de Coupe de France contre une équipe de nationale, en toute logique, voilà, et t'as l'avantage en plus avant le match de recevoir le Paris Saint-Germain. Du moins tu le sais. Bah, l'ambition, je sais pas où elle est. Et le troisième point, j'ai mis dire bravo aux Canets, parce que même si je dis que c'était un petit match, les Canets, ils y ont cru jusqu'au bout. Ils ont mis ce qu'il fallait, et sur un coup de pied arrêté, certes, ça s'est joué, mais bravo à eux, et ils s'offrent une super demi-finale. Ça va être le feu à Dornano.
Bon, on va débattre de tout ça. 32-16, on vous attend. Moi, je vous donne rapidement mes trois points. J'ai mis Lyon au fond parce que il faut quand même qu'on revienne sur l'année 2018 là, parce que à part Villarreal, finalement, ça devient de plus en plus inquiétant. Quand mérite, parce que alors moi, si je dis que quand mérite, c'est pas que sur le match de ce soir, c'est que finalement, c'est un club qui est stable, qui est bien structuré, même si parfois il y a quelques remous en ce moment en interne. Là, ça semble un petit peu bouger. Il y a des gens qui veulent prendre la place de Fortin, mais mine de rien, il y a un attelage qui fonctionne. Voilà, au niveau recrutement, je trouve pas mal, ils se plantent rarement, donc voilà, moi je suis content pour
bien.
Eux. Je suis content pour eux qu'ils se retrouvent là.
Ils travaillent bien, mais je pense que mine de rien,
ce parcours du Calvados.
Non, mais ce parcours en Coupe de France peut être ce parcours en Coupe de France, et j'espère qu'ils iront encore. Pourquoi pas créer la surprise et pourquoi pas la gagner? Parce que s'ils s'offrent une finale contre une nationale, ils ont grande chance de la gagner. Ça peut être la fin de cette ère là, Garande, parce que ça fait un bout de temps avec son staff qui sont là, et peut-être repartir sur d'autres bases l'année prochaine avec une nouvelle équipe pour apporter un nouveau souffle à cette équipe.
Et puis j'ai mis troisième point Neymar, on va en parler tout à l'heure avec les infos du jour, notamment les infos du médecin de la sélection brésilienne qui a expliqué ce matin que ce serait 3 mois d'absence et que donc en gros selon lui on le reverrait pas cette année avec le PSG. On en parlera tout à l'heure. Mehdi, on va parler de Lyon pour démarrer. Mehdi est là, supporter lyonnais. Salut Mehdi.
Salut Gilbert, salut Jérôme,
salut
Jonathan.
Salut Mehdi.
Bon, est-ce que t'es inquiet là? Moi je le disais il y a quelques instants, de plus en plus pour l'OL, parce que en 2018, mis à part la double confrontation face à Villarreal, ça commence à craindre quand même.
Ça craint du boudin. Gilbert, je suis venu commenter le match dimanche en studio avec Arnaud Souk et Jean-Michel.
Ouais.
Donc, à chaque fois que je viens, si tu n'es pas là, ça c'est autre chose. On me dit que Gilbert, il devait préparer son émission pour les JO. Mais
Bois, il est pas là.
Donc Gilbert Bois, il est pas là.
Ah, il peut pas être là tout le temps.
Voilà, c'est ça. Mais je suis venu et j'ai commenté et j'ai trouvé qu'ils avaient pas fait un mauvais match contre Saint-Etienne. C'était un petit rite.
Ils doivent jamais perdre le match.
Ouais, mais jamais de la nuit. Ils ont un tir cadré, Saint-Etienne. Ils ont un but hors jeu. C'est l'occasion de Debuchy. Là, ce soir, c'est pareil. Quand, sur la deuxième mi-temps, Lyon, ils tiennent le ballon. C'est pas génialissime non plus. On va pas dire c'est fou. Mais je trouve qu'il y a des joueurs comme Depé, j'attends beaucoup plus dans l'investissement. Le type, il a un salaire de ministre, un transfert record. Il doit faire beaucoup plus. Pareil, il y a des joueurs, ils sont trop suffisants dans l'implication. Et là, je pense que là, c'est les têtes qui sont touchées, parce que entre Lille, entre Saint-Etienne, entre ce soir, mais jamais de la vie, tu dois les gagner les trois matchs. Mmh. Tu dois les gagner. Lille, t'as deux buts d'avance, Lille, ils montrent rien en première mi-temps, tu fais rien. Contre Saint-Etienne, pareil, Saint-Etienne, ils sont au fond du trou, on les voit pas. Ils font un débordement, centre et but, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste, là, il y a un problème, là, il faut aller, c'est le psych qu'il faut aller voir.
Non, mais, moi, je suis d'accord avec toi que là, ça se joue dans les têtes. Ça se joue dans les têtes, déjà, dans l'investissement de certains joueurs. T'as pointé du doigt Depay. Bon, c'est pas la première fois qu'on le cite, hein. Malheureusement, il est cité à chaque fois qu'il y a un problème de mentalité. Mais tu peux rajouter, sur le match de ce soir, attention, c'est pas sur sa saison, mais Cornet, que des mauvais choix. Le jeune Maolida, au d'un moment, quand t'es devant, tu dois montrer des choses. Non, mais c'est dur. Il n'y a pas c'est dur. Non, c'est pas que je suis dur. C'est que tu joues un quart de finale de Coupe de France. Ces joueurs-là, ils l'ont pas gagné. Ils ont un palmarès.
Tu parles d'un jeune.
Mais je parle d'un jeune. L'investissement.
Qui tourne pas.
Non, mais
elle tourne pas.
Non, mais un investissement, tu sais ce que c'est. Un investissement, c'est pas forcément ta qualité technique. Tu peux rater des choses. Et bien sûr, comme tu dis, c'est des jeunes joueurs, ils sont là pour apprendre. Mais au niveau de la mentalité, oh les gars, oh, il faut montrer. Vous jouez à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, ça manque de caractère. Ça manque de caractère parce qu'il y a des joueurs qui sont pas là.
Un jeune de 18 ans.
Non, mais. Mais l'investissement.
Mais des jeunes de 18 ans, on en a vu, plus performants, même à Lyon.
Exactement.
Il y a pas
si longtemps. Tu peux avoir un autre investissement. Et je pense que le fait d'avoir l'état d'esprit d'un Depay, d'un Cornet aujourd'hui, mais même des milieux, ce que je veux dire, au bout d'un moment, moi, vous me parlez, tout le monde me parle de Touzard. Oh, t'as une responsabilité aujourd'hui. Fekir, il est pas là. Oh, mais et toi, tu peux pas bouger tes coéquipiers. La première mi-temps qu'ils font, elle est gravissime. Alors, je veux bien que ça joue dans les têtes et tout ça. Mais putain, mais au bout d'un moment.
Alors attends, moi je suis d'accord, je te rejoins sur toute la ligne, sauf pour éventuellement le jeune Maolida. Bon, c'est pas, voilà, c'est un jeune, c'est dur, il rentre dans une équipe qui tourne pas. Mais là, il y a vraiment deux choses qui ressortent, qui sont vraiment saillantes sur ce match-là et qui reflètent l'année 2018 de Lyon. C'est que sans un Fekir en forme, cette équipe, ben, elle sert à rien. Très franchement, il y a rien. Il y a aucun fond de jeu. Il y a aucune idée. Il y a aucune cohérence. Et le deuxième point, c'est que Genesio a aucune idée. Enfin, le troisième changement qu'il fait, il fait sortir Jordan Ferry pour faire rentrer Tanguy Ndombele.
Ouais, mais bon,
quelle idée derrière ça? Ben, t'as quand même volé sur le banc. Essaye quelque chose, change de schéma, mais fais pas du poste pour poste. Tu perds 1-0. T'es en coupe, t'es sur le point de te faire éliminer. Essaye quelque chose quand même, bon sang.
Mehdi veut dire quelque chose. Vas-y, Mehdi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jonathan. C'est Fekir, il a plus de gaz dans le moteur. Il est cuit, quoi. Il en peut plus. Et ce soir, il y a beaucoup d'absents. Raphaël est pas là, Mariano est pas là, Fekir est pas là. Ça dédouane pas les joueurs. Cornet, il a une action à la fin face à face avec Samba, où il fait le bon geste quand il se retourne, il peut voir qu'il élimine deux joueurs, et puis il tire quasiment dessus, quoi. Il peut pas mettre la balle sur le côté, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Après, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? C'est que là, ça devient alarmant, quoi. J'ai pas vu, dans les tribunes, à Lyon, ça gueule pas, il y avait un beau tifo, il y avait ce qu'il faut, mais là, il faut réagir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi autre chose qu'il faut soulever, c'est l'effectif. Genesio, il a pas le choix. T'as que Traoré, Cornet et Memphis, ce genre de couloir.
Il y a Gouiri sur le banc. Essaye quelque chose.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Jonathan. Après, il peut repasser en 4-4-2.
Il a pas été bon, Gouiri, cet été, pour le match amico.
T'es premier à me dire, c'est un jeune joueur, Maolida, et là, tu me sors un autre jeune joueur.
Ce que je veux te dire, c'est qu'en cours de match, je fais pas du poste pour poste, alors que t'es mené 1-0 à 10 minutes de la fin.
Attends, franchement, tu crois qu'aujourd'hui.
Sauf que toi, quand tu seras coach, tu feras pas la même chose.
Non, mais. Quand tu joues un match de Coupe de France, c'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger. Quand tu joues un match de championnat, c'est différent. C'est pas forcément t'es dans la gestion de ta saison et tout. Tu peux pas jouer des matchs de coupe à chaque fois.
Bien sûr.
Tu vois, un match de Coupe de France, c'est coup près. On le sait.
Ouais,
donc
bien sûr.
T'as pas le droit à l'erreur. T'as un état d'esprit à avoir. Ils l'ont pas eu d'entrée de match. Ils ont corrigé un petit peu à la mi-temps parce que je pense que Genesio, mine de rien, à la mi-temps, il a dû bouger certains. Ils ont fait un peu plus d'efforts, mais après, c'est trop tard. Ce que je veux dire, quand t'as raté pratiquement une heure de jeu, c'est trop tard. Et quand ouvre le score, là, d'un seul coup, ils recommencent à être dangereux parce que là, ils sont au pied du mur et ils se disent, tiens, on doit en faire plus. Et c'est là, le regret, il est là. Et que c'est pas un problème tactique. Moi, je suis le premier à mettre sur Genesio quand il faut mettre sur Genesio. Mais aujourd'hui, déjà, je pense qu'offensivement, il a pas beaucoup de choix, qu'il s'est enfermé, certes, dans un schéma tactique comme ça, qui a fonctionné au bout d'un moment, mais tu peux pas faire machine arrière aujourd'hui, t'es comme ça, tu joues comme ça, mais l'investissement des joueurs, que tu joues en 4-4-2, à 3 derrière, en 4-3-3, en
3-4-3, là-dessus, il y a des déceptions individuelles, quel que soit le système, qui sont énormes,
Je le mets tout en réaliste. Mais dans la mesure où les joueurs sont pas en confiance.
Non, mais les absents, ça sert à rien de parler des absents.
Quand t'es pas en confiance, que t'as les joueurs qui sont sur une vague négative,
on arrive,
Mehdi. Essaye d'organiser ton équipe un petit peu différemment. Mais t'as du matériel, t'as
encore un mot de Mehdi, ensuite on va gérer.
C'est les deux.
Top, s'il vous plaît, Mehdi.
Oui, Gilbert, non, c'est juste pour dire aussi, je voulais ajouter, il y a le petit Diop qu'on a acheté 10 millions d'euros, on l'a vu une fois cette saison en Coupe de la Ligue. Une fois en Coupe de la Ligue, le gamin, on l'a pas vu, on l'a acheté 10 millions d'euros. C'est-à-dire que tu prends un joueur pour même pas le voir, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas réessayé sur des matchs où c'était un peu plus simple, où tu l'as mis en confiance avec des joueurs. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre.
Mais en vrai, vraiment, il n'est pas prêt. Je t'assure. C'est quelqu'un du vestiaire qui me l'a dit, il n'est pas prêt. Il est très bon, il a un potentiel énorme, mais il n'est pas prêt.
Merci Mehdi, à la prochaine.
À la prochaine,
salut Mehdi.
Salut. Tiens, quelques tweets, les gars. Collins qui nous dit, pour Maolida, le problème, c'est qu'il lui manque un U. Parce que ça ferait Maolida. En l'occurrence.
Attends, ouais, mais avec le U, c'est le toif de Marseille.
Oui,
le toif, ouais.
Il y en a eu plusieurs.
Ouais, exactement.
Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, on me dit, Maxime, dans ce Rotenico en demi-finale, tu vas être pour qui? Caen ou Paris?
Maxime,
ah oui, c'est vrai, c'est...
Qui, moi?
Ouais.
Ah bah écoute, de toute façon, le Paris Saint-Germain a pas besoin de moi pour aujourd'hui être supérieur. Donc il faut encourager le petit. Dire à Paris, ils vont être champions de France, ils vont gagner peut-être la Coupe de la Ligue, même si Monaco est capable de faire mal.
Mais donc t'es pour quand?
Mais une Coupe de France à Caen, ça serait magnifique. Gagner un trophée au Stade Malherbe de Caen, ça serait fabuleux. Et là, c'est une finale avant la lettre. Imagine, ils battent le Paris Saint-Germain, ils s'offrent une finale contre une équipe nationale.
La finale de la Coupe de France cette année, c'est à Caen.
Ouais, non, attention.
C'est à Caen,
rappelez-vous ce qui s'était passé il y a quelques années avec Calais, qui avait c'était la bonne équipe de Nantes. Non mais Nantes avait été perturbée par Calais en finale, rappelle-toi.
Ça s'était joué. Calais qui jouait plus bas que le national à l'époque, hein.
C'était CFA.
Ouais.
Donc, méfiez-vous, c'est une finale, ça se prépare pas de la même façon.
Quelque chose, c'est vraiment mal. Lyonnais, qui a marqué le but?
Qui?
Qui a marqué le but?
De quoi? Diomandé?
Ouais. Il jouait où avant?
Et c'est quoi le
Diomandé à Saint-Etienne.
Il était formé où? C'est l'ironie un peu du sort, quoi. C'est vraiment la semaine pour les Lyonnais.
Ouais, ouais,
bah, la semaine, c'était la saison dernière, Gilbert.
Oui, bon, enfin bon.
Mais écoute, de toute façon, non mais
ça veut faire rager les Lyonnais, Jonathan.
Ah bah les Lyonnais, à mon avis, ils n'ont pas besoin de nous pour rager. Hein.
Tiens, Franck est là, supporter de l'OL. Salut Franck.
Salut l'after.
Salut Franck.
Salut.
Bon, t'as écouté le débat là. Qu'est-ce que tu penses de la situation, toi?
C'est critique, clairement. Il y a rien d'autre à dire réellement. Je veux dire, ça fait depuis début janvier, on est totalement à la ramasse. On va dominer les matchs à 50-60% de possession de balles. On va se prendre une action, un but derrière. On va perdre, on va faire match nul. Faut qu'on m'explique où est l'ambition du club, où est la tactique de Genesio, où est la mentalité déjà dans ce genre de rencontre réellement.
Bah, bonne question.
Oui. Non mais de toute façon, là c'est toutes les limites du système Bruno Genesio. Moi, c'est pour ça que c'est pas un problème tactique. Et là, il faut arrêter de me dire que c'est parce qu'ils ont joué en 4-3-3, il aurait dû changer. C'est pas ce problème, c'est un problème de caractère, d'état d'esprit. Et ça, Genesio, il a d'autres qualités, mais celle-là, il l'a pas. C'est pas le genre d'entraîneur qui arrive à transcender les joueurs au niveau du caractère. Ça doit venir des joueurs leaders.
Non mais t'es gentil quand tu dis ça. Non. C'est juste qu'il arrive pas à leur mettre le coup de trick pour les discipliner.
Mais je pense qu'ils sont dans un confort.
Ça vient du club aussi. Hein.
Oui, mais bien sûr, mais ils sont dans un confort.
Parce que Bruno Genesio, quand il, moi j'étais je suis le premier à le soutenir en tous les cas. Je veux dire, il nous a emmené en demi-finale de Ligue Europa. Il est passé après Hubert Fournier, il a repris le club, il nous a emmené à la deuxième place. Il a quand même fait des bons trucs. Moi, le problème, c'est que je regarde. On a eu des joueurs comme Gonalon, Tolisso, Lacazette, des joueurs sortis du club. Ils ont commencé par des petits matchs, ils ont évolué au fur et à mesure. Là, on trouve le moyen de nous mettre un Maolida en quart de finale pendant 90 minutes. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Comment tu veux que l'équipe reprenne
le truc avec Maolida, c'est qu'on pensait tous que ça serait vraiment la doublure de Mariano, parce qu'après les matchs qu'il a fait cet été en préparation, il a vraiment été bon. C'est vraiment un joueur qui a quelque chose, mais il ressort du placard comme ça 6 mois après. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est juste la gestion. Et en fait, quand tu parles de Genesio, moi, effectivement, j'ai pas envie de trop lui taper dessus, parce que c'est facile de lui taper dessus, parce que c'est l'entraîneur qui est un peu là, on comprend pas vraiment pourquoi. Mais en fait, s'il fait 6 mois, une première partie de saison vrai de bonne qualité, c'est parce que Fekir est en forme et parce qu'il a Mariano qui marque ses buts. Là, il arrive, Fekir est pas là et Mariano est pas là. Et ben effectivement, t'as deux des piliers qui font que Genesio, ça marchait, le Lyon de Genesio marchait en première partie de saison, qui sont pas là. Bah, c'est dur de lui en vouloir parce qu'on sait qu'il est un peu limité dans le fond.
Mais moi, je lui en veux pas. Mais comme je dis, c'est toute une stratégie de club. C'est une stratégie de club parce que quand on a entendu Jean-Michel Aulas en tout début de saison qui disait on va avoir une équipe compétitive, encore plus compétitive que la saison dernière, dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas envisagé une véritable doublure de Mariano qui soit prêt mentalement à jouer dans un championnat qui commence à évoluer de jour en jour avec Monaco.
Attends, on va pas non plus jeter à la poubelle toutes les recrues là, parce que ils ont quand même réussi leur mercato, les Lyonnais. Quand tu regardes les réussites, Marcelo, Mariano, même si bon il est un bras perso, c'est quand même une réussite.
Marcel,
c'est une réussite. Traoré, c'est une réussite.
Je suis totalement d'accord, mais je veux dire, moi quand je regarde Traoré, Mariano, Depay, citez-moi un match à part le Paris Saint-Germain qu'on a fait au Parc au Groupama Stadium, un match où ils ont joué collectivement, il y en avait pas. Il y a aucune mentalité entre ces trois joueurs et là, c'est ça qui pose problème.
Non, moi je te il y a eu le début de saison compliqué de l'Olympique Lyonnais sur certains matchs. Après il y a quand même un gros travail de fait et c'est pour ça que là il fallait mettre Genesio en avant, parce que quand t'as beaucoup de bouleversements dans ton groupe comme ça, c'est pas facile au bout de quelques semaines de tirer le maximum de ce groupe. Et il a réussi à le faire après une trêve internationale. C'était fin septembre, début octobre. Là, il y a une super série où il se dégageait du caractère dans l'équipe, une tactique donc qui marchait bien avec les joueurs en forme.
Bien,
voilà,
bien.
Des joueurs clés qui étaient en forme, donc comme Mariano ou Fekir, comme t'as cité Jonathan. Et Fekir, c'est sûr, c'était le dépositaire du jeu, donc tout passait par lui. Mais c'est normal quand ce joueur-là il est en forme. Mais tous les joueurs, là, il emmène tout le monde. Le problème, c'est que là, ils sont dans le dur, donc il y a des blessures, des suspensions. Genesio, il doit faire des choix. Il a été très critique envers certains dans la mentalité. Il les a mis en garde, il les a mis sur le banc, il les a remis et tout ça. Mais le problème, c'est que là, ça marche plus. Ouais. Tu l'as fait une fois avec Depay, tu l'as fait une fois au mois de septembre, octobre, il l'a écarté quand il a commencé à mettre le petit Awa.
Oui, bien sûr, oui.
Il en a décalé d'autres. Le Cornet a joué aussi à sa place et tout ça. Il a été piqué et d'un seul coup il est revenu. Et là, lui, entre autres, parce que là on parle de joueurs leaders, de joueurs où il y a un investissement important. Cornet, il en fait partie. Alors après, Depay, il en fait partie. Ouais. Bah, je suis désolé. Lui sur ce genre de match, quand en plus de ça, t'as pas fait Kier Mariano.
C'est lui qui doit prendre
il doit montrer l'écran.
Mais tu sais, en fait, plus je regarde la saison de Lyon et plus je me dis qu'en fait, la saison de Lyon, c'est une saison de transition. Une transition qui est subie. Lyon a changé de paradigme. Ils ont vendu tous leurs joueurs maison, Tolisso, Lacazette. Ils ont misé sur des joueurs qui sont vraiment jeunes et qui ont pas forcément de référence européenne. Parce que quand tu prends Tété, par exemple, quand je prends Mariano, c'est des paris, tu vois. C'est des joueurs qui jouent dans des clubs mineurs en Europe. J'ai vraiment l'impression qu'en fait cette saison, c'est une saison de transition et qu'il faut pas vraiment en attendre beaucoup. Il faut attendre l'année prochaine que ces joueurs s'acclimatent vraiment aux exigences.
Écoute,
de
je suis moitié d'accord avec
quand
toi.
Quand je vois ce genre de match-là, c'est ce que ça.
Au début de saison,
très certainement, je pars du principe qu'il se laissait un laps de temps pour tirer le maximum de cet effectif. Mais quand d'un seul coup cette équipe elle dégage de la force, ce qui était le cas, il faut pas se leurrer.
Pourquoi elle marche l'équipe?
Non mais
parce que Fekir il est en feu.
Non mais Jonathan, ce que je veux dire, tu peux pas Fekir en feu, d'accord, mais les bons résultats de Lyon, tu peux pas les effacer du mois d'octobre à début janvier là. Tu peux pas les effacer et te dire que c'est grâce à un joueur. Non, c'est un collectif. Moi je trouvais Lyon bien meilleur. Et là, je me suis dit, et c'est pour ça que je me suis un petit peu calmé sur les critiques envers Genesio, je me suis dit, putain, il a trouvé la formule. Mmh. C'est vrai. Et ça, on peut pas l'effacer. Après, c'est une question de caractère. Moi, je pense qu'ils sont un petit peu trop dans le confort. Mais ça vient pas que du staff, parce que Genesio, il a ses limites. Ça vient de partout. Évidemment, Jean-Michel Aulas, il les protège. Oh, lui, il doit mettre le doigt là où ça fait mal.
Première déclaration de Genesio, il dit le contenu était bon, mais on a fait des fautes grossières.
Mais il était bon, le contenu.
Mais
voilà.
Il était horrible, Gilbert.
C'est pas Maquéo. Mais
le contenu sur les 20 dernières minutes. Mais c'est quand même grave d'avoir ce discours-là. Je dis pas que il doit vraiment dire ce qu'il ressent, si c'est ça qu'il ressent. Mais là, il fait complètement fausse route et tu comprends la mentalité des joueurs. Parce que imagine s'il arrive à dire aux joueurs là après le match, les gars, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, mais dans le contenu, c'est pas mal. Mais les joueurs, le match d'après, ils ont pas envie de se mettre les coronets sur le terrain. Ça va rester comme
vraiment,
ça.
Alors, à la fin de la saison, j'aimerais qu'on regarde.
Jonathan, ensuite,
le nombre
on parle
de points pris par Lyon.
Dépêche-toi.
L'état de forme de Fekir, et tu verras que c'est vraiment.
Non, mais bien sûr.
La bonne période, c'est vraiment.
Mais les grands joueurs deviennent indispensables. C'est toujours comme ça.
Les gars, Benjamin est là. Parlons du stade Malherbe de Caen qui est en demi-finale de la Coupe de France. Benjamin, bonsoir.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut, Benjamin.
Salut. Eh bah écoutez, super. On s'est vu tout à l'heure.
Ah oui, t'étais avec nous dans l'avant-match.
On était dans la voiture, on était en train d'y aller. Et je croyais qu'il y avait Jérôme alors qu'il n'était pas là.
Bah là
et
il est
vraiment,
là.
Maintenant il est là. Et vraiment les gars, je suis hyper content. Le match était quand même assez terne. Il faisait hyper froid. C'était un temps pas incroyable. Mais belle victoire, but de Diomandé. C'est un beau pied de nez, comme on dit au Lyonnais. Et excellent match, j'aimerais vraiment parler du petit Brice Samba, excellent.
Ah oui.
Gilbert à droite.
Est-ce que Samba est meilleur que Vercoutre?
Alors, largement. Sur un match, c'est difficile de dire, mais ce soir, en tout cas, il a fait un très très gros match. C'est en partie aussi grâce à lui qu'on gagne. Et on gagne sans Christian Kouakou, sans Jeanne Répas, qui sont des éléments quand même en coupe qu'on a souvent vu. Donc voilà, et le petit bémol, c'est quand même double R12, Ronny Rodelin, un peu en deçà.
Comment tu l'appelles
double R12.
Double R12. Attendez, tout le monde l'appelle comme ça, quoi.
Et pourquoi?
Bah RR, Ronny Rodelin.
Ah ouais, quand même.
Ouais, ouais, mais attends, il y a de la recherche.
C'est quoi ton nom de Jérôme quand il était à Caen?
Il y a de la recherche.
Double R12.
De quoi?
C'est
quoi
ton nom? Non, mais pas tout le monde l'appelle comme ça. Non, mais bon, on va pas forcément s'arrêter là-dessus, mais en tout cas, très très beau match. Et je suis hyper content et je vous appellerai, je sais plus, c'est en...
Mi-avril,
Tout à fait.
Mi-avril, là, ça va être la fête à Dornano, ça c'est sûr.
Ouais, ça c'est clair. Mais en tout cas, très très beau match et voilà, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on peut pas dire non plus que c'était incroyable, mais voilà, un but sur coup de pied arrêté. Et puis après, derrière, ça a bien tenu. Les dernières 15 minutes, c'était assez...
Était très bon.
Et Samba, ouais, qui sort,
Samba, faut savoir que quand il quitte le Havre, Marseille le recrute et c'est vraiment, c'est vraiment pour être la doublure de Mandanda, quoi. S'il n'y avait pas eu de problème un peu disciplinaire, il serait resté à Marseille, c'était vraiment le gardien qui
s'est... Alors, il s'est un bon gardien, mais on voit quand même des fois qu'il fait des erreurs. À un moment, il a fait une sortie surréaliste et puis le ballon se retrouve entre lui et son but, étrange.
En fin de match, il anticipe un centre, mais c'est vrai que sur l'ensemble, il a fait un match, mais comme souvent quand il joue en Coupe de France, il a été, on en parlait de sa séance de tir au but à Metz, où Metz avait l'occasion plusieurs fois, eu certainement la balle de match, il me semble, où il arrive à être très bon sur les séances de tir au but, mais même dans le jeu, il dégage une assurance. Et moi, je le trouve.
Il a un bon jeu au pied aussi. C'est ce que je l'avais vu jouer avec la réserve de Marseille. C'était vraiment, ce qui était assez saillant, c'est qu'il a vraiment un bon jeu au pied. Il est très bon sur sa ligne. C'est vraiment un super gardien. Et je pense que s'il est cadré, il peut vraiment retrouver le niveau qui aurait dû être le sien depuis quelques années.
Mais comme tu l'as dit, il est cadré. Mais après, c'est à lui de se cadrer aussi. Hein.
Après, voilà, Marseille, ça n'a pas marché. Il y a eu des problèmes disciplinaires. C'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Mais c'est quand même un super gardien.
Mais apparemment, tout est pareil. Parce que Christophe Lécuyer, qui commentait le match, il nous disait pendant le match que Garand lui reprochait souvent son attitude aux entraînements.
C'est la même chose à Marseille, Jérôme.
Donc ça, c'est pas bon signe pour lui, parce que il a beau être bon sur les matchs là qu'on voit de Coupe de France, alors il n'a pas joué 40, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été performant, il a permis à son équipe de se qualifier. Mais c'est vrai que sur le long terme, quand tu t'es placé dans la peau du gardien titulaire d'un championnat, tu peux pas avoir une attitude comme il a.
Exactement. Bon, merci en tout cas. Donc Caen qui se qualifie ce soir 1-0, les gars. On va reparler de Lyon avec l'affaire du jeune joueur William Jebels tout à l'heure. Juste une petite info qui vient de nous arriver. Déclaration de Zlatan Ibrahimovic.
Ah.
Zlatan dit ce soir, l'équipe nationale me manque.
Ouais, c'est sûr, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde.
Eh, tu crois quoi? Le père Zlatan, 1er mars, il dit les mecs. Je suis là, moi.
Ouais, mais avant qu'il lui manque, il faudra peut-être que c'est le terrain qui lui manque parce qu'il joue plus.
Ouais, c'est ça.
Il est blessé.
Il veut que Toivonen reste à Toulouse, le mec, peut-être. Bon, en tout cas,
c'est sur RMC Sport. Concurrence quand même.
Vous aurez toutes les infos. 1-0 pour Caen face à Lyon. Je précise qu'on aura avec nous Fred Hermel et Philippe Auclair tout à l'heure. Fred Hermel, pourquoi? Parce que il y avait Las Palmas Barça ce soir, un partout. Et puis on parlera également des dernières news concernant le Real Madrid à moins d'une semaine du match retour face au PSG. Et puis Philippe Auclair, parce que City a encore battu Arsenal ce soir 3-0. En France, on a les PSG OM. En Angleterre, il y a les Arsenal City.
Hein. N'oubliez pas ça, cette référence.
3-0. Voilà. Allez, à tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit, bien sûr. Et puis Corentin, le plus célèbre des Canets en dehors de Caen, sera avec nous avant minuit pour nous parler de la Coupe du Monde. Et pas de Caen. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
Jérôme Rantaine et là, Jonathan Macardy également après le match Caen-Lyon. Revenons sur hier soir et la rencontre PSG-OM. Pourquoi? Parce que Christophe Dugarry, très énervé tout à l'heure dans Team Duga après Garcia, a poussé un coup de gueule. Je voulais vous le faire réécouter et bien sûr, vous pouvez réagir avec nous au 32-16 juste après. On écoute.
J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je voulais savoir si ces gens-là qui entraînent des équipes de foot, c'est quoi? Ils ont un CAP comptabilité, ils ont un CAP gestionnaire de joueurs qui se blessent. Mais c'est quoi ces bêtises? C'est l'Olympique de Marseille. Ils font du bruit avant le match. On va mettre de l'intensité, on va faire ce qu'il faut. Mais c'est l'Olympique de Marseille qui joue contre le Paris Saint-Germain. Et Rudy Garcia, il est là pour quoi? Pour faire gagner son équipe? Ou il est là? Il a un diplôme de gestion tonnerre. Non mais c'est quoi cette façon de voir le football? J'en ai assez. Fallait me dire dès le départ, ce match on le joue pas, ce match on en a pas envie, au moins tout le monde éclate. T'as tes supporters, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils avaient pas le droit de se déplacer. Ils arrivent 4 heures avant le match, parce qu'il faut qu'ils rentrent 4 heures avant les autres. Ils se gèlent les cacahuètes, ils ont le droit de quitter le stade 3 heures après la fin du match. Ils se sont gelés, ils ont fait la route, ils ont payé, et on leur sert ce match-là. Mais quelle honte! Mais quelle honte de faire ça! Bien évidemment que le match, il est perdu dès le départ, mais il faut les rembourser, les mecs qui se sont déplacés.
Voilà le coup de gueule de Duga tout à l'heure, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je pense que, franchement, moi, on a réagi. Alors, déjà.
Ouais, toi, t'étais avec Duga tout à l'heure.
Tu nous l'as mis, alors, je l'ai fait en direct, tu me l'as mis pendant le match et tu me l'as remis là.
Ah, donc, bah, ouais, comme ouais, quoi, parce
t'es fan
auditeurs
de sa déclaration. Donc, bah, chapeau, Gilbert. Il signera un maillot, hein, peut-être que tu voudras.
Je le kiffe, Duga.
Ouais. Non, mais moi, c'est pas que je le kiffe pas. C'est que, déjà, je suis totalement en désaccord. Pas surtout sur la façon de gérer en fin de match et une autre. Mais je trouve que Marseille a pas géré. Marseille a voulu se qualifier au début du match. C'est ce que je te disais pendant le match et ce que je lui ai dit en direct. Moi, sa composition d'équipe, certes, il avait retiré certains joueurs de dimanche, mais c'est toujours pareil. On en parlait avec Roland. Il perd 3-0 dimanche soir. S'il fait aucun ajustement, s'il change pas des joueurs, on va lui reprocher s'il perd 3-0 parce que l'équipe de dimanche soir, tu la remets hier. Je pense que c'est même tarif, c'est la même chose.
Il y a rien de choquant dans sa compo. Hein.
Comment? Mais il y a rien de choquant. Non, mais attends. Après, je te laisserai, Jonathan, parler de sa réaction.
Rien de choquant.
Mais non, mais après, au bout d'un moment, quand il parle des supporters. Mais les supporters, ils ont bandé de venir enfin depuis 4 ans de venir au parc, de venir supporter. Bon, après ils ont bandé différemment parce qu'ils ont tout cassé.
Ils ont détruit
donc
les toilettes.
Ça c'est bon, pas tous, mais une partie. Donc et ça c'est sièges. Pas normal. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils s'en foutent. Ils étaient là pour encourager et ils y ont cru comme les Marseillais. Et moi j'y étais sur place pendant 45 minutes plus une minute. Mais quand ils ont pris le but, comme beaucoup d'équipes au Parc des Princes. Bah, déjà, tu prends un coup derrière la tête juste avant la mi-temps, et Duga, c'est là que son expérience ouais. de joueur aussi doit faire que quand on prend un but comme ça, tu fais une mi-temps, t'es pas trop en danger. Ils ont pas été flamboyants, mais non. Tu prends un but à la 45e plus une. Je pense que Rudy Garcia leur a bien dit, attention, non, début de deuxième
mi-temps. Quand t'as à la 50e, t'arrêtes de jouer, alors, parce que 2-0.
Jouer, t'es mené.
Bah, tu fais l'épicier.
Mais là, on en revient toujours à la même chose. Tu prends, attends, alors. Et juste pour finir, à la 48e, tu prends d'entrée.
Parce que là, c'est pas OM Istres, match amical du mois
d'août. Mais alors, donc, il fait pas de changement. Il est là jusqu'à la 70e minute. Il serait passé quoi, Gilbert?
Imagine, il revient à 2-1.
Mais en quoi? Alors, qu'est-ce qui te donne les certitudes qu'il revienne déjà?
Parce que vu les changements qu'il a fait, t'avais les certitudes qu'il reviendrait pas.
Mais là, vous vous trompez tous les deux. Vous dites des bêtises tous les deux.
Sur les deux matchs.
Vous dites des bêtises parce que Duga, il dit des bêtises parce qu'il exagère. Mais sur la composition de départ, je suis d'accord avec toi. Marseille fait une très bonne première mi-temps. Enfin, très bonne. Non, oui, mais fait une première mi-temps, ils sont pas en danger. Ouais. C'est une première mi-temps sérieuse. C'est une première mi-temps qui est à l'image de ce que Garcia avait annoncé. C'est-à-dire qu'on va être plus solide, plus en bloc. On va moins prendre de risques, on va moins jouer au ballon, mais on va être un peu plus solide. Mais le problème.
Jouer au ballon, mais
oui, mais c'était pas non plus, tu vois, comme au match aller où vraiment, parfois il y avait des déséquilibres. Mais là où je rejoins Duga, et là où je te rejoins Gilbert, c'est que quand même les changements qu'il fait. Alors je l'adore, Boubacamara, je pense que ça sera un très bon joueur. Mais les changements qu'il fait quand il fait sortir Florent Thauvin, qui fait rentrer Sarri, quand il fait sortir Gustavo, qui fait sortir Camara, c'était peut-être un petit peu exagéré. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jérôme, c'était un petit peu exagéré. Parce que le match, t'es d'accord avec moi, t'en as joué, moi, plus que moi, t'en as joué des matchs comme ça. Tu peux pas les lâcher comme ça. Pour l'honneur, c'est une question d'honneur, Jérôme. Je sais que toi, tu les aurais jamais lâchés, ces matchs-là.
Où vous perdez la notion, c'est que moi, en tant que joueur, j'aurais pas accepté, certainement, mais quand je jouais, il n'y avait pas d'écart comme ça entre Paris et Marseille. C'est clair. Là, aujourd'hui, il y a un écart. Et il faut se rendre compte. Au bout d'un moment, il faut arrêter de penser, comme dit Duga, c'est l'Olympique de Marseille. Bien sûr que c'est l'Olympique de Marseille. Bien sûr que c'est l'Olympique Lyonnais. Bien sûr que c'est l'AS Monaco. Ils ont tous une histoire, ces clubs-là. Mais aujourd'hui, quand ils viennent au Parc des Princes, ils prennent tous des saucées.
Sauf que
il
y a 51
matchs qu'ils n'ont pas perdu un match, le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes.
T'es mené 2-0 à la 50e minute. Qu'est-ce que Garcia il pense?
Eh ben, quand lui, il pense, ouvert, il se dit, comme ça, tu fais pas ça.
Écoute, Thauvin, il a un carton jaune, il en prend un, je vais le perdre pour le prochain match. Donc, je le sors. Je sors Luis Gustavo parce que c'est une catastrophe si lui, il est pas là, plus que tous les autres que je viens de te citer. Et ça s'est vu dès qu'il est sorti. Alors là, c'était le néant complet.
Bien sûr.
Eh ben, je vais le préserver. Il fait deux changements. Et en plus de ça, il fait un changement. Le premier, je te répète encore une fois, Flo Thauvin fait une super saison. Il était pas dans son match comme ça peut arriver. Moi, je suis pas définitif sur le fait que, ouais, il est pas, il y en a beaucoup qui disent il est pas du niveau international, il est pas ceci, cela.
Ça veut rien dire.
C'est la vérité de ces matchs-là.
C'est le collectif. C'est le collectif.
Avec ce qu'il a montré, il est à un très bon niveau.
C'est les uns pour les autres, les gars.
Que les gens s'inquiètent pas. Mais par contre, quand tu le sors à la 48e, à la 50e minute, pour le remplacer par un jeune joueur, mais tu veux qu'il remplace par qui? Franchement, tous les joueurs offensifs auraient pu sortir à la mi-temps. MJ, tu crois qu'il a été bon, MJ?
Mais Jérôme, je suis d'accord avec toi.
Jonathan, et ensuite on conclut.
Le problème, c'est que quand tu as ouvert ta bouche comme ça, avant, en conférence de presse, que tu as dit on va faire un match d'homme,
oui,
on va
l'arrêter. Bon,
fais pas ça, tu peux pas te permettre symboliquement, pour la domination symbolique que tu peux pas te permettre de faire ça. C'est pas, ça se fait pas. C'est un match qui est pas comme les autres.
Quand tu parles, et puis tu vas pas reprocher aux autres. Moi, je reproche pas aux joueurs de parler. Non, pour finir, je reproche pas aux joueurs de parler. Je reproche pas à Ami d'avoir dit. Moi, je pense juste que il y a des joueurs, ils ont peut-être trop voulu mettre l'état d'esprit, le fait de rien lâcher, de faire mal aux Parisiens et d'en oublier leur qualité.
Parce que Rami,
quand tu vois, juste pour finir, Rami, sur l'ouverture du score, c'est lui qui fait l'erreur. Mais Rami, il est capable de faire une passe, c'est un bon joueur de football, mais avec ses déclarations, il s'est perdu dans quelque chose qu'il ne sait pas forcément faire.
Regarde,
c'est tout.
Le dernier...
Stop.
Exactement. Bon, je vous donne juste 2-3 réactions. Mine de rien, nos afteriens sont assez partagés. Maki qui dit « Je suis du même avis que Duga. Ce que l'OM a proposé hier soir, c'est une honte. » Et puis Anthony qui dit « L'OM a pas arrêté de jouer. C'est juste qu'il pouvait pas faire mieux.
»
Point barre. Tout comme Parisienne qui le dit « C'est juste que l'OM est nul. » Voilà. Les réactions ce soir. Alors, dossier suivant, Neymar. Pourquoi Neymar? Parce que les infos du jour sont les suivantes. Neymar est arrivé au Brésil. Et là, le médecin de la sélection brésilienne qui a fait l'aller-retour à Paris dit ce matin, je vous préviens, c'est 3 mois. Donc en gros, il ne le dit pas dans ces termes-là, mais ça veut dire saison terminée. Donc évidemment, on n'a pas, les radios, on n'est pas capable d'établir un diagnostic médical. Mais tout de même, dans un premier temps, on nous parle d'entorse. Vraisemblablement, il y a beaucoup plus que ça, puisque ensuite c'est devenu une fissure. Mmh. Et là, le médecin du Brésil ce matin, il a parlé de fracture. Mmh. Voilà. Donc alors, qui dit vrai, qui dit faux, version contre version, sélection brésilienne contre PSG. Évidemment, au Brésil, on veut qu'il soit au top pour le mondial. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'il va rester au Brésil pendant 3 mois pour faire sa rééducation? Nasser El Khelaifi hier soir dit, de toute façon, nous, on peut rien faire. Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, avec tout ça, que le PSG est pris en otage?
Franchement,
en quelque sorte.
Je vais vous dire, après le lundi matin, à 8h, il y avait le match le dimanche et tout. Moi, on connaît un peu 2-3 personnes. Moi, je sais que Neymar, il était déterminé à jouer le match contre le Real Madrid. Vraiment.
Après, il a fait les examens.
Il y a eu les examens qui, une fois les examens qui ont été faits le lundi soir dans la soirée ou le mardi matin, je sais plus. Mais là, effectivement, une fois les examens ont été faits, c'était fini, quoi. Enfin, c'était pas possible pour lui de continuer. Mais jusqu'aux examens, il était vraiment déterminé à se remettre, à tout faire pour pouvoir jouer le match retour. Donc, ce qui me gêne, en fait, un petit peu, c'est pas qu'il soit blessé. Il s'est blessé, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Tu joues, tu te blesses. Mais c'est qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Enfin, on va pas lui demander de nous sortir ses radios pour montrer qu'il a vraiment une fracture. Je trouve que ça serait un peu déplacé. Mais voilà, faut juste préciser un truc.
C'est pas une première. Le fait que le joueur aille se faire opérer ailleurs. Je rappelle que Thiago Motta, il y a pas si longtemps, avait aussi été pris en charge. Il était au PSG par le médecin de la sélection italienne. Je rappelle que Benzema, il y a quelques temps, était venu se faire opérer à Lyon.
C'est normal.
Et on va voir si Griezmann il se pétait là. Je ne sais pas.
On a tous des habitudes quand t'es joueur de football, encore plus un joueur comme Neymar que d'autres, mais même un joueur international, quand t'as affaire à un autre staff, parce que quand t'es un joueur international, t'as ton staff en club et t'as ton staff en équipe de France, tu peux faire plus confiance à ton staff en équipe de France que quand tu joues à l'étranger où tu parles la même langue.
C'est la langue, rassure. Même. Les termes médicaux, c'est quand même spécifique.
Bien sûr, ça te rassure. Et puis, il y a des bons chirurgiens dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc, que ça soit en Allemagne, en Italie, au Brésil, en France, en Espagne, t'es capable de te faire opérer n'importe où. Surtout sur... une fracture, parce que là on parle de fracture, une fracture qui est quand même pas quelque chose d'horrible à soigner, du moins non, moi j'en parlais, c'est des termes médicaux, mais on en parlait tout à l'heure sur BFM Sport avec un docteur qui nous disait voilà, cette fracture là elle est pas c'est pas quelque chose d'incroyable de d'opérer. Par contre d'opérer comme ça, c'est sûr que on imagine plus qu'ils opèrent parce que c'est une fracture plutôt qu'une fissure, parce que même le docteur nous disait si c'était qu'une fissure, je pense qu'au bout de 3 semaines, il peut rejouer. Là, le fait qu'ils annoncent une fracture, tu confirmes donc que l'opération, ça va être une vis dans la cheville pour sécuriser tout ça et qu'au bout de 2 mois et demi, bah, il reprendra la compétition.
Allez, on enchaîne les gars parce que Fred Hermel nous rejoint. Il faut qu'on sache comment on voit tout ça depuis Madrid, bien sûr. Salut Fredo.
Voilà, Tico.
Salut Fred.
Alors, qu'est-ce qu'on dit à Madrid à propos de Neymar aujourd'hui?
Ben, on dit que il y a définitivement une brèche entre Neymar et le PSG.
Je pensais que t'allais me dire, on dit qu'on a peur de Di Maria.
Pourquoi une brèche?
Ah oui, ça, oui, ça, qu'on est, de Di Maria, bien sûr, parce qu'il y a un problème avec les ex au Real. Il y a beaucoup d'ex qui ont fait beaucoup de mal. On se souvient de Keto avec le maillot. Avec le maillot de Barcelone a fait quelques problèmes au Real. Et puis il y a pas longtemps, hein, en 2015, un certain Morata qui était à la Juventus avait mis le but qui éliminait la demi-finale de Ligue des Champions. Donc,
et Morientes.
Et Morientes avec le... ah bah oui, c'est vrai. Exactement, je l'avais oublié celui-là, tu vois. C'est une période j'ai voulu éviter.
L'oublie pas.
Hein. Enfin, c'est il y a longtemps maintenant.
C'était en 2004 exactement. Mmh. Et donc non, mais c'est à dire que alors ils vont pas vous dire ici les supporters ou la presse royale ou même au sein de l'équipe qu'ils sont tristes pour Neymar. Même si les mots de Zidane lundi en disant mais moi je veux qu'il joue parce que c'est vrai qu'en général ils préfèrent jouer contre les meilleurs joueurs, mais ça va pas les rendre plus sûr d'eux-mêmes.
Mais pourquoi tu parles d'une brèche entre Neymar et le PSG?
Non, c'est pas moi qui parle. Je parle de la presse.
Pourquoi il parle de ça?
Bah, tout simplement parce que c'est la fédération du Brésil qui a décidé et le père de Neymar qui a brisé suivant la vision espagnole des choses. C'est-à-dire ce qui a beaucoup choqué, c'est que jamais Neymar au Barça, jamais Neymar au Real, le père aurait communiqué avant le club. C'est même pas imaginable une seule seconde.
Mais il faut voir le contexte de l'interview aussi, Fred. C'est une question qu'on lui pose, il réagit, c'est pas lui qui prend la parole.
Essaye pas de défendre.
Je m'en fous du père de Neymar, je m'en fous du PSG, je m'en fous de Neymar, mais je te dis qu'il répond. Il répond à des mensonges dits sur Espagne Brésil.
Dans un grand club, ça ne se serait pas passé.
Bien sûr, Fred,
je te rejoins là-dessus. C'est vrai que on a souvent mis en avant le fait que la communication du Paris Saint-Germain soit pas, ne serait-ce que pour protéger les joueurs, protéger le club par moment, soit pas au top. Il y a des problèmes. Il faut encore qu'ils se mettent au niveau, comme dit Fred, des grands clubs européens, que ça soit les deux clubs espagnols. On parlait de Barcelone, Real Madrid, du Bayern. En Italie, pareil, en Angleterre, ce que je veux dire, il y a des choses que tu dois apprendre. Tu peux pas discréditer, si tu veux, ton entraîneur.
Ah, c'était terrible pour lui. Moi, je l'aime bien en plus, Emery.
Mais bien sûr, Emery, 2 heures avant, il dit... il n'y a pas de décision de prise, on ne sait pas, on va attendre. En gros, il dit qu'il y a une chance qu'il joue contre le Real Madrid. Et 2 heures après, tu as le père de Neymar. Oui. Alors bon, c'est son père.
C'est hyper violent pour Emery.
Mais bien sûr.
Qui est un bon mec en plus. C'est quelqu'un qui essaie de protéger ses joueurs et tout. Et là, il a vraiment essayé. En gros, c'est comme si, je te dis, pas mon avis, mais vu d'Espagne, parce qu'on aime bien Emery ici. Enfin, je veux dire, c'est quand même un entraîneur espagnol. Oui. C'est en gros, il y a l'expression no pintanada. Ça veut dire, il compte pas.
Voilà, ah, dis-moi, Fredo, je change de sujet, le CRAS.
À 500 000 balles par mois, c'est grave qu'il compte pas.
Des nouvelles de Marcelo.
Alors Marcelo, la bonne nouvelle pour le Real et mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est qu'il s'est entraîné normalement ce matin. Il a même joué un petit match, etc. Donc il jouera contre Getafe samedi soir. Donc il pourrait être titulaire au Parc mardi.
Et les deux autres, une bonne nouvelle.
Les deux autres, ils ne sont toujours pas entraînés avec le groupe. Ils travaillent en solitaire. On parle de Kroos et de Modric. Attention parce que Zizou. Alors demain, bien sûr, je serai à l'entraînement demain et puis à la conf de presse. On va savoir parce que si aucun des deux, enfin, ou même les deux sont, enfin, s'ils sont pas demain à l'entraînement collectif, ils vont pas jouer contre Etafé. Et Zizou, je suis pas sûr, et lui-même,
qu'il en mette
des joueurs, des joueurs qui, alors surtout.
Il n'y a pas plus de certitude pour Modric que pour Kroos?
Pour l'instant, non.
Non?
Okay. Pour l'instant, bah, ils ne sont pas entraînés. Donc,
et puis un dernier mot, Fred. Las Palmas-Barça ce soir à partout. Il y a désormais 6 points, non, 5 points d'écart 5 entre points. Le Barça et l'Atlético. Et il y a Barça-Atlético ce week-end.
On pensait que la Liga pouvait terminer ce week-end, mais même en cas de défaite de l'Atlético, ça ferait 8 points. Donc, alors, Las Palmas, c'est le 18e. Le Barça mené grâce à un coup franc encore sublime de Messi. Messi tire mieux les coups francs que les pénaltys. Hein. Oui, pour lui, c'est plus simple. Et le Barça, c'est un peu endormi sur ses lauriers. Et puis, il y a une main de Digne, un peu bizarre quand même, qui aurait pu ne pas être sifflé. Penalty, égalisation de Las Palmas. Et il y a surtout,
ouais,
un dégagement du gardien du pied. Le ballon rebondit sur sa main, mais on sent qu'il fait le petit geste. Il est en dehors de la surface. Et à la mi-temps, on y a une. C'est ça qui est génial en Espagne, c'est qu'il y a des caméras partout. On voit Mateu Laos, qui est le meilleur arbitre espagnol, qui dit je peux pas siffler, je l'ai pas vu. Il est conscient qu'il a fait une erreur. Il a pas vu la main du gardien. Il a pas sifflé. Ça aurait été une expulsion. Bon, en menant 1-0 avec. Voilà, il a été honnête. Voilà, c'est tout. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que le Barça a eu un penalty contre lui ce soir. C'est la première fois en 2 ans que ça lui arrive en Liga. Donc, et c'est dommage parce que c'est un penalty qui aurait dû ne pas être sifflé.
Merci Fredo, bonne soirée.
Merci les amis, à demain.
Dans quelques instants.
Demain
dans l'Arqué Foot, bien sûr. Dans quelques instants, Philippe Auclair pour Arsenal City et Corentin qui va pas nous parler de Caen, mais qui va nous parler de l'Australie. Je suis Corentin qui parle de Caen, c'est convenu.
Oui,
donc, l'Australie, futur adversaire de la France à la Coupe du Monde. Tout de suite, je rappelle que Caen se qualifie face à Lyon en Coupe de France ce soir. Caen, PSG, Les Herbiers, Chambly, voilà les affiches des demi de Coupe de France dans un mois.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jonathan McCarthy, Jérôme Rotten, ils sont là ce soir, c'est l'after. Et Philippe Auclair nous rejoint, messieurs. Ce soir, c'était Arsenal City. Et une nouvelle fois, Arsenal en a pris une bonne. 3-0. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert, en direct de l'Ukraine, de Donetsk, je pense, au niveau du temps. Vous entendez un bruit bizarre qui fait... C'est mes dents. Et on peut parler d'une dégelée, je pense, ce soir pour Arsenal. Ça sera...
Question, pourquoi y avait-il si peu de monde au stade?
Alors, je vais te dire que d'une part, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se déplacer au stade, tout simplement à cause du temps, des conditions atmosphériques qui sont quand même très difficiles avec les transports en commun qui sont très affectés, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis également, le choix de certains supporters qui se sont dit, bon, après ce qui s'est passé dimanche, j'ai pas encore envie d'assister à une nouvelle procession funéraire. Et on a été très très vite fixés, comme vous avez pu le voir. Je pense que...
Ah oui, on est dans le... on l'entend là, tu vas décoller bientôt là.
Non. On est simplement frigorifié. C'est simplement ça qui explique. Donc voilà. Arsène Wenger, avec lequel William Gallas a pu parler un petit peu après la fin de leur rencontre, a essayé de trouver des... Non pas des excuses, a reconnu la supériorité de Manchester City, mais bon, c'est catastrophique ce à quoi on assiste. C'est les derniers rites. C'est l'extrême onction, j'allais dire, quasiment de ce qui se passe. Et franchement, je ne sais plus comment dire parce qu'en fait, on pourrait.
C'était la première fois qu'ils se prenaient 3 buts en 3 minutes.
Bah écoute, tu prends 3-0 en plus de ça.
C'était la première fois, non ?
Quelle a été votre impression, mais notre impression.
Ouais, on t'entend pas bien, Philippe, là. Alors, je crois qu'on va te laisser dans la tempête, là, parce que malheureusement, on a du mal à te comprendre avec le vent dans ton téléphone. Donc, en tout cas, une nouvelle fois, Arsène Wenger ultra contesté. Il faudra qu'on suive dans les jours qui viennent ce qui se passe. Hein.
C'est la première fois qu'ils se prennent 3-0 en 30 minutes. Et au bout de la demi-heure de jeu, il n'y avait pas de match. Et ce qui est terrible, c'est que t'avais l'impression, c'est le cas hein, au classement quand tu regardes les quarts de points, mais t'avais l'impression d'avoir une équipe qui est 3-4 niveaux au-dessus, quoi.
Il y a des erreurs dans cette équipe de, alors il y a eu des erreurs en finale de Coupe de la Ligue. Quand tu prends un but sur un 6 mètres, c'est quand même incroyable. Voilà. Putain, tu as la chance de refaire un match à domicile en plus. Dire bon, voilà, eux ils l'ont perdu le championnat à Manchester City, ils l'ont quasiment gagné déjà. Tu peux leur rentrer dedans et non, alors, tu subis, tu prends 3 buts comme ça en première mi-temps, au bout de 20 minutes, il y a 3-0.
Je pense vraiment
là les joueurs répondent plus à Arsène Wenger.
Est-ce qu'on entend mieux Philippe là, Philippe?
Oui, Gilbert, vous m'entendez un petit peu mieux, j'espère.
Ah, c'est mieux.
Voilà. Non, mais j'entendais ce que disait Jérôme, mais je pense que c'est en effet ce qui se dit ici également en Angleterre, c'est le fait qu'on attendait une réaction de ces joueurs après ce qui s'était passé à Wembley. Et en fait, on a assisté à exactement la même chose, à savoir que on n'a pas senti la révolte, et on a vu une équipe de Manchester City qui, pour moi, a joué en seconde. Ils ont passé la vitesse supérieure sur 3-4 occasions. Ils les ont mis au fond. Elles sont magnifiques. Hein, je veux dire, les buts de Manchester City, c'est du grand art, c'est magnifique à voir, c'est splendide. Mais d'un autre côté, il n'y avait absolument rien en face. On me dit que ça s'est pas trop bien passé entre Arsène Wenger et ses intervieweurs sur Sky, ses interviews à capoter. Je ne suis pas totalement surpris, parce que les questions que l'on va poser sont évidemment les questions que l'on pose de plus en plus maintenant, à savoir non seulement la contestation par les fans, qui aujourd'hui ont hué l'équipe à la fin de la première période, mais c'était horrible, qui ont également quitté le stade était vide à la fin de la rencontre. Mon problème, c'est que cette contestation, elle est maintenant sensible, pense-t-on, au niveau des dirigeants même d'Arsenal. Et tu dois te poser la question, je veux dire, c'est une espèce de longue agonie qui est extraordinairement difficile à vivre pour tout le monde, j'imagine. Plus difficile que pour Arsène Wenger, ça doit être un cauchemar ce qu'il vit en ce moment. Ça doit être un
cauchemar. Merci Philippe. Merci Philippe, bonne soirée et à très vite. Donc Arsène Wenger dans la tourmente plus que jamais. Deux trois petites infos. Donc le jeune Lyonnais Willem Goebbels qui signe finalement son premier contrat pro hors de Lyon. Alors on parle de Monaco qui tiendrait la corde, mais Lyon est en colère puisque Lyon en communique en disant il est arrivé chez nous à 9 ans, on s'est occupé de lui, il a bénéficié de l'académie puisque maintenant on dit plus sur de formation, on dit académie avec un Y, c'est vrai, t'as raison. L'académie.
Et il s'en va. De néerlandais. Et il s'en va. De français, de cours d'anglais, de cours de piano.
Donc l'OL prend acte et défendra ses intérêts, dit-on.
Mais par contre, c'est vrai que il y a de la déception du côté lyonnais, mais c'est une grosse claque pour Jean-Michel Aulas. T'imagines que c'est une des pépites de.
Il est talentueux, hein.
Il est. Moi, je le connais pas, mais apparemment, il est présenté comme ça. Il a beaucoup de clubs sur lui.
Il est très bon.
Imagine, c'est même pas un choix où on en parlait avant le match de ce soir. C'est même pas un choix stratégique financier où tu te dis bon, il signe à City parce que ils ont des moyens. S'il signe à Monaco, franchement, alors bon, même si Monaco certainement la vue de l'appartement de ses parents sera plus jolie qu'à Lyon, mais quand
il
même,
a pas la mer à Lyon.
C'est une grosse claque, c'est une énorme claque. Et là, il faut se remettre en question parce qu'il parle d'un projet sportif. Ça veut dire qu'à Lyon, il n'y a pas de projet sportif.
Je suis pas d'accord parce que son entourage est un peu compliqué apparemment.
Ah oui, non, mais
franchement, pour que tu demandes dans un contrat des cours de piano, c'est quand même bizarre, quoi, tu vois. C'est que t'as quand même des attentes qui sont un peu farfelues.
Ça, je sais pas, moi, je suis pas allé dans les.
C'est sorti, hein.
D'accord, oui.
Dans le communiqué, ils disent, il a demandé des cours de piano. C'est curieux.
Certains ont des bagnoles, lui, il avait des cours de piano.
C'est quand même un peu curieux.
Il y a bien eu des footeux qui ont fait une carrière dans la musique,
pour une fois.
Non, regarde, Basile Boli, il est sorti un tube.
Non, pas Basile Boli.
Joël Batz.
Emmanuel Petit aussi,
l'ancien de Saint-Etienne, là.
Jean-Pierre
François, attends.
Ouais. Et Emmanuel Petit, là, avec
les Français. Aimons-nous vivants.
La suspension de Malcolm confirmée par le CNOSF. Deux matchs, ça ne changera rien. Les recours bordelais. C'était une petite info que je voulais vous glisser.
J'essaie de me faire la même chose.
L'instant Corentin, messieurs, c'est tout de suite.
RMC, l'afterfoot. L'instant Corentin.
Corentin, salut.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Jonathan.
Salut Corentin.
Alors Corentin, tu nous parles pas de Caen ce soir, même si ça aurait pu évidemment.
Attends, il a vibré.
Bon, allez, vas-y, dis-nous un mot sur Caen, puis après on parle de notre trophée, de notre trophy tour.
Non, bah si dire un mot, la satisfaction, c'est bien. La première mi-temps un peu compliquée, mais on a fait ce qu'il faut en deuxième mi-temps. Puis maintenant, on a 32 points en championnat, donc avant la demi, il faut se mettre à la première
championnat. Corentin, arrête un peu.
Non, j'ai dit satisfaction, je profite bien sûr, satisfaction, mais bon, ça s'enchaîne le match de Strasbourg, hein, Gilbert, important dans 3 jours, donc voilà, on verra bien.
Corentin, tu es là parce que évidemment le trophée de la Coupe du Monde est dans sa grande tournée mondiale. Aujourd'hui, le trophée est en Afrique du Sud. Il sera bientôt à Paris, le 20 mars prochain, avec Tim Duga qui sera présent pour toucher ce trophée, puisque seuls les champions du monde ont le droit de le toucher. Et évidemment, dans ce cadre-là, tous les jeudis, tu nous parles de la Coupe du Monde. Et tu as choisi ce soir de nous parler d'un des adversaires de la France au premier tour, l'Australie.
Ouais, et plus particulièrement du nouvel arrière-gauche de Lens, Alex Gersbach, qui a 20 ans et qui est arrivé au mois de janvier à Lens. Donc pour l'instant, il a joué 4 matchs de Ligue 2.
Attention, Corentin, quel célèbre Australien a joué à Lens il y a quelques années ? Attaquant, ailier, rouquin.
Ça m'échappe, excuse-moi.
Prénom Robbie. Robbie Slater, enfin.
Robbie Slater.
Jérôme, Robbie Slater, une légende.
Moi, je laissais Corentin.
Je te laisse continuer, Corentin. Vas-y.
Non, je disais, ouais, il a joué 4 matchs de Ligue 2 pour l'instant. Les défaites contre Orléans, contre Clermont, le match nul contre Valenciennes et la victoire contre Quevilly à la dernière minute, il y a une semaine. Et il a joué aussi le match au Verbier mardi soir.
Donc c'est lui qui sera contre Mbappé à la Coupe du Monde, quoi.
Ça se peut, il se peut. Bon, même s'il a que 20 ans et que pour l'instant il a que 4 sélections en Australie, donc il est que doubleur pour l'instant.
Parce que...
Mais bon, ce que je peux dire moi sur ces 5 matchs avec Lens, pour l'instant c'est pas fameux. Déjà, bon, Lens ils l'ont pris un peu d'urgence parce qu'il y a eu la grave blessure de Karim Hafez et puis il y a eu les erreurs de recrutement de l'été dernier. Donc le fait de le prendre en urgence au mois de janvier, ça a été pour l'instant c'est pas bénéfique. Il a une qualité assez offensive, il n'hésite pas à se projeter, on voit qu'il a une qualité de centre, tout ça, mais par contre, au niveau du duel, physiquement, pour l'instant, c'est pas ça, et les résultats de son équipe, ça aide pas non plus à ce qu'il s'épanouisse. Donc, sinon, après, pour faire parler plus généralement de l'Australie, leurs deux meilleurs joueurs, bon, le premier, on le connaît tous, l'attaquant Tim Cahill.
Ouais.
Et le deuxième, il a longtemps joué en première ligue et maintenant il a encore à Aston Villa, c'est le meneur de jeu Jedinak. C'est un peu les deux meilleurs joueurs de cette équipe australienne.
Moi, très franchement, je vais te dire, Corentin, moi je suis pas inquiet. Cette équipe d'Australie, elle fait peur à personne. Enfin,
et puis, je vais citer mon ami Das qui va à Bollard à chaque match de Lens. Il m'a dit le petit Sorstalin, il a intérêt à s'y filer à la muscu s'il veut faire quelque chose. Apparemment, défensivement, c'est vraiment. Ça vole facilement l'épaule.
Non, bien sûr.
Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon ami qui va le pauvre, qui va bolard tous les 15 jours, c'est dur.
Écoute-moi, pour finir sur l'Australie, je les ai fait, j'ai commenté la Coupe des Confédérations. J'ai été surpris parce qu'on m'a annoncé une équipe très physique, mais même pas ça. Même, il y a même pas ça. Alors, il y a une qualité technique qui est quand même faible, et au niveau international,
ils ont 60 minutes dans les pattes,
Ça pardonne pas. Ouais, physiquement, j'étais surpris. Corentin nous le rappelait. T'imagines que la star de cette équipe, c'est Tim Cahill. Cahill qui a 30, quel âge il a? Tim Cahill, c'est 36 ans, non?
35, disait Corentin.
Ouais.
Voilà, t'es blonde, t'as les yeux bleus, tu peux essayer.
Non,
il me semble, tu les as commentés à la Coupe des Confédérations, Jérôme, il me semble qu'il a joué le match contre le Cameroun. Je sais pas si tu l'as fait celui-là.
Il
me semble qu'Alex Gerbar, il a joué ce match-là, il me semble.
Exact.
Donc, je sais pas si tu te souviens précisément, mais.
Il m'a pas choqué, donc c'est pas
possible. Corentin, merci.
Lui.
En tout cas, voilà,
salut,
l'Australie
Corentin.
Ne nous fera pas
merci
peur.
Merci, Gerbar, merci, Jérôme, merci, Jonathan.
Salut, grâce à toi, on en sait plus. On est plus rassurés, en fait, grâce à Corentin ce soir.
Ouais.
Je rappelle que le trophée sera l'Alvin avec Tim Dugas. Tout ça avec Coca-Cola, bien sûr, notre partenaire pour cette opération.
C'était l'actu du FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola avec l'instant Corentin dans l'Afterfoot.
C'est fini pour ce soir. Jérôme, merci.
Merci à vous.
Merci. Demain, bonne la soirée. Fin sera là dès la fin du match Monaco-Bordeaux. Il y a deux matchs demain. Il y a Nice à 19h.
Et Monaco-Bordeaux.
Et Monaco-Bordeaux à demain soir. Bonne nuit à tous.
Bonne nuit.
Dans la vidéo.
RMC, le super football show, l'After Foot.